J'espère que vous avez passé un bon réveillon, Noël. Je sais qu'il y a des gastros qui courent là. Manon m'a appelé hier soir, tout le monde était malade. Viens tel que tu es, c'est problématique ça. Beaucoup de gens autour de nous ne veulent pas de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils peuvent y aller tels qu'ils sont. Ils pensent qu'il faut, il va falloir faire ceci, faire cela. Et beaucoup de chrétiens, parfois, quittent les communautés parce que, pareil, viens tel que tu es, là, ils n'ont pas compris que le travail dans notre vie, c'est le Seigneur qui le fait. On lui dit oui, on lui dit oui, on est d'accord, mais c'est lui qui le fait. On ne peut pas s'améliorer, nous. C'est impossible de s'améliorer. Il faut que lui nous améliore. Et malheureusement, beaucoup de gens ont du mal avec cet aspect-là. Ils ne le comprennent pas. Viens tel que tu es. Alors j'espère que vous êtes venus aujourd'hui tel que vous êtes. Hein, et que vous n'avez pas trop d'espoir sur vous-même, comme je n'en ai pas sur moi-même. Le seul espoir que j'ai, c'est que le Seigneur puisse me faire quelque chose de moi. Jean 9. On est à Jean 9 aujourd'hui, ce chapitre m'a parlé, mais il m'a parlé d'incrédulité. En fait, notre société est capable de croire à des tas de choses, des posts Facebook avec des trucs invraisemblables, parfois qui semblent vrais, et les gens peuvent y croire sans vérifier les sources, mais très peu sont capables de croire à la venue du Fils de Dieu. Et son absence pendant les fêtes de Noël, dans 99% des foyers, en est la preuve. Hein. Je cite le sociologue Gérard Mermet. Il dit « Il faut évoquer le grand vide créé par la disparition progressive du religieux dans la vie collective et individuelle. Le recul de la foi et celui surtout de la pratique ont eu des conséquences sur les grandes certitudes concernant le monde et sa finalité, peut-être aussi sur la conception de la morale, qui était autrefois soutenu par la perspective d'une vie après la mort, d'un accès à la révélation, d'un salut de l'âme, d'une récompense pour les efforts accomplis et les frustrations subies au cours de la vie. Au lieu de cela, les incroyants doivent se contenter de vivre ici et maintenant, convaincus qu'il n'y aura pas de deuxième chance. » Intéressant qu'un sociologue qui n'est pas chrétien, hein, puisse écrire ce genre de choses. Hein. Gérard Mermet. Alors, le chapitre 9, il est long. Pour résumer un peu, hein, on va lire quelques passages, on va lire quelques versets. Par exemple, il fait 41 versets, hein, donc on va lire des versets 24 à 41, mais juste pour résumer un peu le chapitre 9, c'est l'histoire d'un homme aveugle. Aveugle de naissance qui rencontre Jésus. Jésus guérit cet homme en appliquant un peu de boue mélangée à de la salive sur ses yeux. Un procédé bizarre, hein, au premier abord. Hein. Et sur l'ordre de Jésus, cet homme va se rincer les yeux dans un réservoir, une réserve d'eau appelée le réservoir de Siloé. Et parmi ceux qui le connaissaient auparavant, cet homme trouve l'admiration, l'étonnement, les gens sont émerveillés par ce qui vient de lui arriver. Mais aussi, il y a beaucoup d'incrédulité, et en l'occurrence, devant les chefs religieux. Les chefs religieux de l'époque sont incrédules, les pharisiens. Et ils vont même faire venir les parents de cet ex-aveugle pour les interroger. Et ces religieux têtus, pas du tout convaincus, vont alors faire venir une seconde fois l'homme guéri pour l'interroger. C'est étonnant. Finalement, dans ce passage, que ce soit des religieux qui, finalement, soient le plus incrédules. C'est des religieux qui sont le plus incrédules, finalement. C'est étonnant. Alors, on va lire 24 à 41, Jean 9. Donc, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, Je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Moi, j'ai perdu mon... Ah, voilà. Maintenant, je vois. Ils lui dirent de nouveau, « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'insultèrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé par Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Il parlait de Jésus, hein. Cet homme leur répondit, « Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. » Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il lui répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui voient, pour ceux qui ne voient pas, voient, et pour ceux qui voient, deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, « Nous voyons. » Ainsi donc, votre péché reste, subsiste. Intéressant. En fait, il y a trois réactions dans ce passage. Jésus révèle trois réactions qu'on pourrait attribuer à nos contemporains. Premièrement, il révèle ce que nous mettons derrière le mot « croire ». Ce que nous mettons derrière le mot « croire ». Jésus dit « Je suis la lumière du monde » dans les versets 5 et 7 qu'on n'a pas lu. Il dit « Je suis la lumière du monde ». Vous voyez, la guérison de cet aveugle se fait au travers aussi de cette phrase. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue, les appliqua sur les yeux de l'aveugle, puis lui dit « Va te laver au réservoir de Siloé ». Le mot « Siloé » veut dire « envoyer ». L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Il voyait clair. Pour opérer une guérison, Jésus utilise rarement un élément extérieur, un élément matériel. Et ici, il va utiliser de la boue et de la salive. Jean Calvin, réformateur, il a dit qu'il fallait voir dans cette manière d'agir un procédé pédagogique dans le but de mettre la foi du malade à l'épreuve. Alors moi j'ai dit oui et non. Oui peut-être, mais non. Il y a aussi cet aspect de proximité. C'est-à-dire, Jésus, je pense qu'il a aussi simplement voulu entrer en contact intime, direct, personnel, avec le malade. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'à chaque fois où Jésus a eu affaire à des malades possédant tous leurs sens, il a agi uniquement par le regard ou par la parole. Et dans des cas comme celui d'un sourd et muet, chapitre 7, ou d'un aveugle dans l'évangile de Marc, toujours, Jésus utilise un autre procédé, c'est-à-dire un élément extérieur, un procédé extérieur, matériel, qui lui permet de rentrer en contact finalement tactile, direct et intime. Jésus n'a jamais touché un démoniaque. Jamais il a touché un démoniaque. En la personne de Jésus, on pourrait dire là que Dieu désire se faire notre intime. C'est ce qu'on a chanté ce matin. Cette intimité aussi que nous vivons les uns avec les autres. Il désire se faire intime avec nous. Il veut une relation d'intimité. Où ta relation n'est pas ma relation, où ma relation n'est pas la même relation que vous avez vous. Chacun a sa relation intime et personnelle avec le Fils de Dieu. Il se rencontre et se fait connaître de façon individuelle, personnelle. Il fait appel à nos sens. Il fait appel à nos sens. Et au travers de Jésus-Christ, Dieu, il veut rentrer en communion, en communication avec nous, dans une relation intime. Les juifs religieux, les pharisiens, étaient en quelque sorte des amis, des personnes intimes, mais par personnes interposées. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, il y avait quelques rares privilégiés dans l'Ancien Testament qui ont été les amis directs de Dieu. Abraham, Moïse ont été appelés les amis de Dieu. Et les juifs religieux bénéficient en quelque sorte de l'amitié de Dieu, mais au travers d'autres personnages. D'autres personnages. D'ailleurs, pour le juif de l'époque, Dieu dans ta vie, c'était Dieu dans la vie d'Abraham, dans la vie de Moïse, d'abord. Et puis après, toute la pratique. Toute la pratique, on va dire, de la loi. Verset 29. Ce verset vient confirmer ce que je suis en train de vous dire. Les religieux disent, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais cet homme-là, nous ne savons pas d'où il vient. Cet homme-là, en parlant de Jésus. Moi, j'ai l'ami d'un ami qui connaît bien Zinedine Zidane. Et nombreux sont ceux qui définissent leur croyance de cette manière-là. Dans les gens autour de vous, ils ne vous disent pas des fois, ah ben t'as de la chance toi, t'es croyant. Ou alors, il y a un prêtre dans la famille, waouh. Ça, c'est la bénédiction de Dieu sur la famille. Très peu de gens ont compris que Jésus a changé cette situation-là. Très peu de gens ont compris que Jésus n'est pas venu apporter une connaissance de Dieu par personne interposée. Il est l'Emmanuel. Il est Dieu avec nous. Et ceux qui ont pris le risque d'écouter Jésus, de s'approcher de lui, de lui faire confiance, Jésus leur a ouvert les yeux. Il leur a ouvert les yeux sur l'existence de son Père, il leur a ouvert les yeux sur ses projets. D'ailleurs, il le dit, « Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. » Le mot « ami », ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion établie. Ce n'est pas une étiquette ou une vague connaissance, c'est une relation intime. L'amitié, c'est quelque chose d'intime. On se côtoie d'une manière, vous allez me dire, mais parfois je sens rien, j'ai l'impression qu'il n'est pas là, etc. Mais c'est pas grave. Il est quand même là, il est votre ami. Vous savez, dans la Bible, l'aveuglement, c'est plus qu'une maladie ou une malformation optique. C'est avant tout le symbole du péché, d'un problème spirituel. Dans Matthieu 13, parlant à ceux qui sont spirituellement aveugles, Jésus disait « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles entendent. De peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se tournent vers moi » et que je les guérisse. Vous, au contraire, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Voir la présence de Dieu dans nos vies, ce n'est pas évident. En ce moment, je suis en pleine réflexion sur mon ministère, sur des propositions qui m'ont été faites, qui me semblent complètement saugrenues. Et puis, en même temps, des problèmes de santé qui arrivent, et je ne sais pas pourquoi ? Et puis d'un coup, des problèmes de santé, je vois le docteur, il me dit, monsieur, non, il ne voit rien. Et puis une sœur qui m'écrit, elle me dit, tu sais Daniel, j'ai fait l'IBG avec elle, elle me dit, tu sais Daniel, tu es en pleine réflexion en ce moment. Peut-être que tes problèmes, même de santé, viennent de l'ennemi. Elle a connu ça. Des gens qui avaient des soucis de santé, qui prie et que ses problèmes de santé d'un coup disparaissent. Vous savez, je suis pas mystique, hein, je suis pas dans ce genre-là, c'est pas mon style, mais il faut reconnaître que c'est fort probable. Alors, comme avec cet aveugle de naissance, Dieu désire entrer en contact avec vous, avec moi, avec ceux que nous côtoyons, Le diable ne veut pas ça. Il veut nous empêcher d'être en contact, en relation. Il veut nous empêcher que Dieu nous révèle ses plans pour nos vies. Il veut nous empêcher de ça. Il veut nous tracasser. Il veut nous dire, non, mais... Non, je suis pas assez... Non, je suis trop vieux. Non, mais je suis pas assez fort dans tel domaine. Ah, mais je suis pas assez calé dans ceci ou dans cela. J'ai pas assez de connaissances dans ceci, dans cela. Je suis, en ce moment... Vous voyez ce que je veux dire? Et il veut nous tirer vers le bas. Parce qu'il ne veut pas que nous entrions en contact, en relation intime. Il ne veut pas que nous réalisions cette bénédiction que nous avons d'être en relation intime avec le Seigneur Jésus. Il ne veut pas. Alors Jésus révèle aussi les intentions cachées de notre cœur. Ça, c'est le deuxième point. Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle. Combien de personnes ont interrogé cet aveugle guéri? Bien, ses voisins, verset 8. Ceux qu'il avait connus auparavant, comme un vulgaire mendiant, toujours au verset 8. Les pharisiens et les juifs, au verset 13. Alors ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. Voyons-toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux? C'est sûrement un prophète, répondit-il. Une fois de plus, Jésus vient déranger le religieusement établi. Il guérit déjà un jour de sabbat, on a déjà vu ça plusieurs fois dans l'évangile de Jean, c'est-à-dire le jour où il ne faut rien faire, même pas guérir un aveugle, t'imagines? Même pas guérir un aveugle, c'est la loi. C'est la loi. De ce fait, juste une parenthèse, ce qu'a fait Luc ce matin, au fond de nous, il y a quelque chose qui nous... On est content, on se dit, ah, c'est super, et puis, mais quand même, il y a quelque chose qui nous dérangerait presque. Parce que ça vient changer le religieusement établi. Dans un culte, on est assis, on ne bouge pas, on ne vient pas devant. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre du religieux chez nous, qui vient quelque part nous titiller, nous dire, ouais, c'est sympa, on aime bien Luc. Alors on se dit, bon, Luc, il est chouette, franchement, il préside bien, allez, on y va. Et puis, tu vois, et quelque part, au fond de toi, tu te dis, mais... quand même, est-ce que ça se fait? Ouais, pourquoi pas? Vous avez plein de questions qui viennent comme ça. Ouais, bon, il n'y a rien de... Ouais, c'est bien. Ouais, puis en même temps, ça nous unit. Ouais, mais quand même. C'est triste, mais le religieux, il est là. On doit combattre ça. Alors, je reviens à mon aveugle, hein, et cette loi qu'il ne faut pas le guérir le jour du sabbat. Lui donner... À Jésus, le titre de prophète devient blasphème par la loi. Un prophète, ça obéit à la loi. Donc, lui donner le titre de prophète, c'est un blasphème. Parce que le prophète ne peut qu'obéir à cette loi. Et en fait, Jésus est certainement plus qu'un simple prophète, voire Dieu lui-même, parce que c'est lui qui a le droit de modifier la loi qu'il a lui-même établie. Certains préfèrent penser que Jésus est un imposteur. Et beaucoup de gens autour de nous le pensent. Alors, comment un imposteur, un charlatan, peut-il rendre la vue à un aveugle? Alors, l'interrogatoire des pharisiens a pour but de trouver, finalement, dans le récit de l'aveugle, guéri, quelque chose, un truc, une faille. Un truc qui va démolir Jésus, qui va le discréditer. Et le problème, c'est qu'il y a un miracle. Il y a un cadavre dans le placard, le miracle est là, et ça, c'est incontestable. On a fait venir la famille, on a fait venir les amis, les gens le connaissaient. C'est un aveugle de naissance qui mendiait, parce qu'il ne pouvait pas se nourrir tout seul. Il ne pouvait pas travailler. Donc il était connu. Alors le problème, c'est que comment faire pour discréditer un miracle? C'est impossible. Et les pharisiens sont dans cette histoire comme les scientifiques sceptiques, vous savez. Ils tenteraient de trouver une raison à ce qui est inexplicable. Ils vont même aller jusqu'à la thèse du complot. Les adeptes du paranormal diraient qu'il y a eu ce jour-là une intensité d'ordre positive. Alors le problème, il faudrait que ce foutu miracle n'ait jamais existé pour déclarer, pour discréditer Jésus. Et l'aveugle a tellement vécu quelque chose de, je ne sais pas si tu arrives à t'imaginer, mais d'irréfutable, de quelque chose de dingue, que ses réponses débordent même d'ironie. Il dit, « Je vous l'ai déjà dit !» leur répondit-il. « Et vous ne m'avez pas écouté ?»« Pourquoi tenez-vous encore à me faire répéter ? » Est-ce que par hasard, j'aime bien ça, est-ce que par hasard, vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples ? Et cette question, elle est ironique. Hein. Je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà répondu à votre question, vous me reposez encore la même question, mais qu'est-ce que vous voulez finalement ? Vous avez envie de devenir ses disciples ou quoi ? Il est culotté quand même. Hein. En fait, il leur dit, si moi j'étais aveugle, vous, eh bien, vous êtes sourds. Vous êtes bouché, quoi. Je vous l'ai dit deux fois, vous n'avez pas entendu, quoi. Alors, l'aveugle, certainement, n'a pas fait de hautes études, mais il connaît une petite vérité biblique, qu'il va d'ailleurs balancer en pleine poire aux religieux. Tout le monde sait. Il commence sa phrase par « tout le monde sait ». Donc, même moi, je le sais, qui suis rien du tout. Moi, je le sais, vous le savez aussi, donc tout le monde sait. Sauf vous, apparemment, c'est extra, hein, ça commence bien, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tout le monde sait, mais quand même, vous êtes des religieux. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Petite vérité, tout le monde sait, et vous les spécialistes, vous devriez le savoir encore mieux que nous, qui sommes de simples et vulgaires lecteurs de la Torah, médiocres pratiquants de bas étage. Nous savons au minimum que lorsque quelqu'un est attaché à Dieu, ben Dieu entend ses prières, quoi. Et voilà que notre mendiant, ex-aveugle, ex-mendiant aussi par la même occasion, est en train de donner un cours de théologie ou de catéchisme aux théologiens. Et verset 32-33, « Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait pu rien faire. » Sous-entendu, si vous ne savez pas ça, je ne sais pas où vous avez fait vos études, mais ça ne va pas. J'ai l'impression qu'il y a ici un phénomène bien plus grand que ma guérison. C'est que vous n'avez rien compris. Ça, c'est encore plus impressionnant. Vous qui devriez avoir tout compris. Vous savez, je pense que beaucoup de gens partent d'emblée avec l'intention de ne pas vouloir croire. Parce qu'on nous éduque avec cette idée-là de ne pas croire. Je voulais enregistrer une petite vidéo, mais ça sera peut-être pour une prochaine fois, où c'est expliqué clairement le système dans lequel nous vivons, où finalement on a choisi l'athéisme. C'est un choix. Depuis la séparation de l'Église avec l'État, l'école publique, etc., les programmes sont faits pour contrer et pour aller à l'encontre de la foi. C'est pas possible autrement. Alors, les pharisiens, dans cette histoire de dingue, ont décidé aussi de ne pas croire, même s'ils sont religieux. Je ne sais pas toi, si à un moment donné dans ta vie, tu avais décidé de ne pas croire. Moi, je pense que oui, à un certain moment de ma vie, j'avais décidé de ne pas croire. Je ne voulais pas croire. Parce que finalement, quand on croit, ben, ça fait référence à notre vie. Ça remet en question beaucoup de choses. À notre comportement, à notre façon de vivre, à notre façon de voir la vie. Ça remet en question beaucoup de choses. Tout comme ces pharisiens, ça remettait en question tout leur système religieux, toute leur tradition, ce qui s'est passé là. Vous savez, c'est quand même difficile de croire qu'un aveugle se remet à vivre, à voir, parce qu'on a appliqué un peu de boue sur ses yeux et puis qu'il est allé se nettoyer. C'est quand même pas évident quand même, hein ? Faut dire ce qui est. Les adversaires des miracles de Jésus, ou dans l'histoire religieuse, hein, résonnent finalement de la même manière que ces pharisiens. Ils retirent de la croyance un fait non démontrable. scientifiquement. Le surnaturel ne peut pas être. Vous savez, il y a même des facultés de théologie où on enseigne que Dieu n'existe pas. Il y a même des pasteurs d'église qui ne croient pas que Dieu existe. Je ne sais pas si vous savez ça. C'est un métier. Ils croient que Dieu n'existe, ils ne pensent pas que Dieu existe. Et ça s'appelle le libéralisme. Hein. Et on retire de la Bible tout événement surnaturel. Et au fur et à mesure, si on enlève les événements surnaturels, ben on enlève Dieu. C'est logique. Hein. On ne peut pas faire autrement. L'aboutissement de cette façon de faire, c'est on enlève Dieu. Puis on enlève la Bible après, bien sûr. Alors, Jésus, dans le troisième point, révèle aussi ce qui nous empêche de croire. Donc Jésus apprend que les pharisiens ont chassé l'aveugle guéri de la synagogue. Il alla le trouver, lui demanda, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il lui répondit, « Qui est-ce ? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. » Et Jésus lui dit, tu le vois de tes yeux. Avant, tu ne le voyais pas, maintenant tu le vois. Il est là, je suis là. Tu vois, c'est moi. Ah ok, waouh. Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour ceux qui ne voient pas, pour que ceux qui ne voient pas et que ceux qui voient deviennent aveugles. Pour que ceux qui ne voient pas, pour que ceux qui voient ne voient pas, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. C'est pas évident, c'est sûr que la première fois que tu ouvres la Bible, tu tombes sur ça, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il veut dire là ? Des pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ses paroles et lui demandèrent, serions-nous par hasard, nous aussi, des aveugles ? Mais si vous étiez de vrais aveugles, répondit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez aussi, votre culpabilité reste entière. Jésus est en train de déclarer que sa venue sur terre a pour but d'éclairer le monde, mais que tous ne veulent pas se laisser éclairer. Et parmi ceux qui ne veulent pas se laisser éclairer par Jésus, il y a ceux qui pensent voir, qui disent « moi je sais ». Mais rien que le fait de dire « moi je vois », ils ne voient pas. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et tous ceux qui repoussent la lumière qui émane de Jésus, finalement, sont inévitablement aveuglés par elle. Jésus dit à ce type de personne, « Si vous admettiez votre ignorance, je pourrais vous en guérir. » Si vous admettiez que vous ne savez pas, mais vous vous vantez, vous êtes présomptueux dans votre façon de fonctionner, de votre savoir, alors vous êtes malade et votre maladie reste incurable. Tant que vous ne vous tournez pas vers moi et que vous ne dites pas, « Oui, ok, toi tu es la lumière. Toi tu peux éclairer ma vie. » Et vous savez que devant un univers finalement tellement compliqué, il vaut mieux peut-être rester petit. Devant la complexité de la vie, même de la vie chrétienne parfois, il vaut mieux rester petit. Oui, c'est possible qu'il y ait quelque chose que je ne comprenne pas, que je n'arrive pas à mesurer, plutôt que de dire « bah, je sais ». Jésus dit que, oui, la tête de ce peuple est devenue dure. Ils ont bouché leurs oreilles, ils ont fermé les yeux. Ils ne voulaient pas voir avec leurs yeux, entendre avec leurs oreilles, comprendre avec leur cœur. Ils ne voulaient pas changer leur vie. Alors je n'ai pas pu les guérir, Matthieu 13. Je n'ai pas pu les guérir. Et ce que je vous disais au début, il fait le travail, à condition que je dise oui. Vas-y, je te laisse là. Je te laisse le faire. Croire en l'existence de Dieu remet beaucoup de choses en question. Changement de vie, abandon, réorientation des objectifs. Et ça, on a du mal. C'est finalement beaucoup plus facile et moins coûteux de dire que Dieu n'existe pas. Ça me permet de préserver ma tranquillité. Vous savez, vous imaginez que je vous bande les yeux, je fasse venir l'un d'entre vous, je mets une cible au fond là-bas, je bande les yeux de l'un d'entre vous, je mets ici, je lui dis, bon, regarde bien la cible. Avant de lui bander les yeux, je lui donne des fléchettes. Je lui dis, voilà, regarde bien la cible, hein, tu la vois la cible, hein, elle est là-bas. Je te bande les yeux maintenant et tu vas tirer sur la cible. Je suis sûr qu'il y en a la moitié qui sortent. Ou alors ils se planquent, quoi. C'est exactement la condition d'un homme sans Dieu. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est quoi ? C'est la voie de la mort. C'est ce qui se passe, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et quand on dit oui à Dieu, eh bien, c'est comme si tu étais là avec ton bandeau et que petit à petit, il relâchait ton bandeau et tu commences à voir la cible. Tu ne la vois pas peut-être bien comme il faut, mais tu commences à la voir un peu. Il faut que tu t'entraînes, tu vas tirer à côté, encore tous être planqués, mais petit à petit, tu vas voir la cible et tu vas commencer à te rapprocher de plus en plus de la cible. Et c'est ça qui s'est passé avec cet aveugle, spirituellement. C'est ça qui s'est passé avec nous le jour où nous avons accepté Jésus dans notre vie. C'est qu'il y a des choses qu'on ne voyait pas et que tout à coup on a vues. Et il y a des choses qu'on ne voit pas encore. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais petit à petit, on commence à les discerner, à les voir. Vous savez, rater la cible, dans la langue grecque, se traduit par péché. C'est le péché. Ça s'appelle ça. C'est comme ça. Et c'est pour ça que nous ratons la cible, parce que nous sommes nés dans le péché. Mais Dieu a ouvert nos yeux, en tout cas, j'espère. Jésus n'est pas venu uniquement pour nous dévoiler notre état, il est venu pour le prendre à son compte. Il a pris notre péché sur lui. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que veut dire ce passage. Ça veut dire que les hommes autour de nous voient Dieu tous les jours. Mais ils sont incapables de le reconnaître. Les gens voient Dieu tous les jours. Ils vont se balader à Cabri, ils voient les montagnes, ils voient le soleil, ils voient l'étendue. Ils voient Dieu tous les jours. Mais ils sont incapables de le reconnaître. Dans leur vie, il y a la bénédiction de Dieu. Ils ne la voient pas. Ils ne la voient pas. Ils ont la santé, ils ont un bon travail, ils ont une jolie famille, mais ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas. Ils n'arrivent pas à reconnaître Dieu dans tout ça. Par contre, ils le voient quand ça ne va pas. Ils lui mettent la faute sur lui. Conclusion. Trois éléments dans une histoire. Dans cette histoire, ont retenu mon attention. Premier élément est que Jésus dit à l'aveugle, va te laver au réservoir de Siloé. Le mot Siloé veut dire envoyer, donc l'aveugle va se laver et à son retour il voit. Donc l'aveugle doit aller et il doit se laver. Il faut savoir que le réservoir de Siloé se trouvait en dehors des murs de la ville, à son extrémité sud-est. La Bible parle d'endroits qui existent et qui ont existé, qui existent encore aujourd'hui, c'est ça ? Henri-Pierre, tu es allé toi ? Tu l'as vu, le réservoir de Siloé ? Voilà. Pourquoi je donne cette précision ? Mettez-vous à la place d'un aveugle. Mettez-vous à la place d'un aveugle. Vous n'y voyez rien. Que dalle. Et puis, il vient quelqu'un, il crache par terre, il fait de la boue, paf ! Va te laver. Et toi, tu es là. Je vais où, là ? Oh, pardon. T'imagines, imagine la scène, mais un truc de fou, quoi. Et bien sûr, cet aveugle a dû réfléchir un peu en marchant, quand même. Peut-être même qu'à mi-chemin, il a dû se dire, mais attends, mais je fais quoi, là ? Mais je suis complètement idiot, mais je fais quoi, là, à mi-chemin ? Je suis perdu, j'ai de la boue dans les yeux, j'y vois rien, je demande mon chemin aux gens. Mais j'ai vraiment l'air d'un abruti, quoi. Bref, mais l'aveugle n'a pas retroussé chemin. Je sais pas si toi, dans ta vie, même dans ta vie chrétienne, tu t'es pas dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Mais qu'est-ce que je fais là ? Mais c'est pas possible. Mais cet aveugle est allé jusqu'au bout. Il a obéi, on va dire, aveuglément. Le second élément qui a retenu mon attention, c'est celui-ci, verset 32-33. On n'a jamais entendu dire « Quelqu'un a ouvert les yeux d'un homme qui est né aveugle. L'homme qui fait cela vient de Dieu, sinon il ne pourrait rien faire. » Ben oui, je me suis posé la question. Est-ce que Bouddha a ouvert les yeux d'un hindou? Est-ce que Mahomet a ouvert les yeux voilà, est-ce que Lao Tzu a ouvert les... Confucius, François Hollande a inversé la courbe du chômage? Non, ça, c'est pas d'actualité, ça me paraît. Mais bon, aucun de ces hommes n'a ressuscité un mort, ni donné la vie à un mort, ni un seul pécheur a été pardonné, ni un aveugle a été guéri, ni un boiteux s'est mis à marcher. Seul Jésus l'a fait. Troisième élément qui a retenu mon attention, la question de Jésus à l'aveugle guéri. Crois-tu, Fils de Dieu ? Et là, je me suis dit, mais finalement, croire au Fils de Dieu va beaucoup plus loin que de croire en Dieu. Croire au Fils de Dieu signifie croire en son œuvre, en ce qu'il a fait pour nous, en sa mort, en sa résurrection. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. On se condamne nous-mêmes, finalement. Il ne nous condamne pas, il n'est pas venu pour nous condamner, mais on peut se condamner nous-mêmes. Il faut bien comprendre que c'est nous qui avons péché contre Dieu, pas Jésus, hein. C'est nous qui avons offensé Dieu, pas Jésus. C'est nous qui sommes aveugles, pas lui. C'est nous qui avons besoin de croire, pas lui. Et c'est nous qui aurions dû subir et souffrir la séparation de Dieu avec nous-mêmes. C'est nous qui aurions dû crier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour terminer, je lis juste ce verset. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire des aveugles spirituels, Christ est mort pour nous. Alors que nous puissions dire avec cet aveugle né, je sais que j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Je vais prier. Seigneur, merci pour ces passages qui nous rappellent qui tu es, qui nous rappellent aussi ce que tu as fait pour nous, qui nous rappellent aussi comment on peut être incrédule. Seigneur, tu désires ouvrir nos yeux sur la réalité de notre vie, la réalité du monde dans lequel nous vivons. Seigneur, merci de continuer ce travail que tu fais en nous, que nous puissions de mieux en mieux voir qui tu es, de mieux en mieux voir ce que nous sommes aussi, de mieux en mieux avancer avec toi, t'honorer, te glorifier. Seigneur, c'est toi qui agis. Et Seigneur, si peut-être ce matin notre cœur est étouffé par les soucis, donne-nous de pouvoir retrouver cette joie de te connaître, cette joie de cette relation intime que nous pouvons vivre avec toi, cette joie de t'appartenir, cette joie d'être conduit par toi dans notre vie, enseigné par toi, aimé par toi. Merci pour ta présence. Merci d'avoir ouvert nos yeux sur ce que tu es.